Posterité, il n'est pas dit, et aux postérités, comme comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ensuite, l'apôtre montre que la loi de Moïse qui fut donnée plus de 4 siècles après n'annulait ni ne rendait la promesse sans effet. Pierre explique la nature de l'engagement en disant « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Notons ce qui suit avec attention, car il s'agit de l'explication de la bénédiction attachée à la promesse. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, Christ, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Comme on le constate, Dieu avait promis à Abraham que par lui toutes les familles de la terre seraient bénies. Cette bénédiction n'est autre que le salut par Jésus-Christ. Paul dit que si on est en Christ, que si nous appartenons à Christ, nous sommes les héritiers de cette promesse. Être en Christ est une expression à la fois courante et merveilleuse. Et Paul nous en donne une définition. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ceci est valable aussi bien pour les Juifs que pour tout être. Car tout de suite après, nous pouvons lire, il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. D'aucuns avancent très souvent l'argument que la promesse faite à Abraham était perpétuelle et que toute argumentation est par conséquent superflue. L'Éternel a évidemment promis le pays de Canaan à Abraham et à sa postérité, et un accomplissement de cette promesse coule de source, puisque Dieu ne peut ni mentir, ni ne pas tenir ses engagements. Cette promesse, s'est-elle déjà matérialisée ou doit-elle se réaliser dans une restauration moderne d'un État juif? Par bonheur, deux témoins sont à notre disposition pour répondre à cette question. Ils sortent tout droit de l'Ancien Testament, Josué et Néhémie. Écoutons tout d'abord Josué. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Je me suis déjà entendu dire qu'au temps de Josué, les Israélites ne possédaient pas tout le pays que Dieu avait promis de donner à Abraham. Josué n'était probablement pas au fait des choses, puisqu'il stipule tout le pays que Dieu avait juré de donner. Que dire d'autre? Par ailleurs, Néhémie, lui aussi, devait être très faible du côté cerveau, puisqu'il ne savait pas que la promesse divine demeurait pendante, lorsqu'il déclare « C'est toi, éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir du en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. » Tu trouves son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Canaanéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phéniciens, des Jébusiens, des Guirgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. La promesse divine de faire une grande nation à partir de la postérité d'Abraham s'est réalisée. La promesse de bénir l'humanité par cette descendance s'est accomplie lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité. La promesse de donner le pays de Canaan s'est également effectuée. Si l'engagement fait à Abraham concernant la Palestine se situe dans le futur ou même dans le présent, le fait que la postérité du patriarche ait quitté l'Égypte pour entrer en Canaan ne représente pas l'accomplissement de quelque chose. Certains imaginent que la promesse concernant le pays de Canaan était absolument inconditionnelle et que Genèse, chapitre 17, versets 7 et 8 le prouvent. Si l'affirmation que Canaan serait accordée à Abraham et à sa descendance d'une façon inconditionnelle est juste, il faut croire que Moïse était atteint de la même faiblesse que Néhémie du côté cerveau, car il ne savait pas. Lui aussi écrivit pourtant sous la direction, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et notamment les chapitres 28 et 29 de Deutéronome, qui démontrent la nature inconditionnelle du cadeau. Le chapitre 28 commence par ces mots. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, » et Moïse va de très nombreuses fois dire au peuple d'Israël que toute bénédiction est subordonnée à cette exigence, obéir à la volonté divine. Par ailleurs, le prophète va également révéler au peuple d'Israël les conséquences d'une désobéissance à ces mêmes commandements. Écoutez, l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi, ni tes pères. Et un peu plus loin, toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Et on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère. Tout cela ne ressemble en rien à un pays que Dieu donne à Israël d'une manière inconditionnelle. Josué, lui aussi, avertit Israël qu'il doit rester fidèle à Dieu afin d'entrer en possession de Canaan et du danger qu'il y a de devenir comme les nations qui l'entourent. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Josué, aussi, atteint du cerveau, autant que les autres, ignorait sans doute que l'Éternel avait donc inconditionnellement donné le pays à Israël. Une conclusion partielle peut être tirée de ce que nous venons de voir. Premièrement, que la nation d'Israël s'est vue retirer le qualificatif de peuple élu. Deuxièmement, que l'État israélien n'est plus la nation sainte du passé. Troisièmement, que les Juifs ont effectivement possédé l'entièreté du pays de Canaan. Et quatrièmement, que l'alliance territoriale faite par Dieu avec les Hébreux était subordonnée à leur obéissance à sa volonté. Programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous? Et quelqu'un qui ne porte pas d'autres noms, qui ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi est surtout le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seul ses enseignants et ceux des apôtres font autorité de nous. Parlons de ce que la Bible dit et nous verrons financement à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, Cedex. Et je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398 31086 Toulouse CEDEX.